Le gouvernement Le Cornu a passé l'épreuve du budget et semble pouvoir tenir sans difficulté jusqu'au prochain budget. Et donc éloigne Emmanuel Macron des exigences de démission qui étaient lancées à son encontre avec la crise de l'instabilité gouvernementale. Le président profite donc de son maintien au pouvoir, en dépit d'une impopularité record, pour tenter de verrouiller l'état profond. L'administration et toutes les autorités non élues, avec comme objectif de lier les mains d'une éventuelle présidence du Rassemblement national, et peut-être secrètement de préparer son retour plus tard. Ce faisant, il rappelle que le pouvoir discrétionnaire de nomination, probablement le plus ignoré du grand public, est aussi le principal pilier de l'absolutisme présidentiel en France et demeure pleinement en vigueur. Le pays, pendant ce temps, voit le pourrissement général de la situation se poursuivre, avec aucune réforme structurelle possible pour l'instant, et une violence politique qui a encore franchi un nouveau palier, avec un jeune homme militant proche du collectif Némésis, ce soir entre la vie et la mort, après avoir subi les coups des milices Antifa. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le vendredi 13 février 2026, il est 21h34, bienvenue dans cette émission, je vous remercie d'être là en ma présence. Je vous remercie aussi, je le fais tout de suite, d'avoir poussé efficacement la précédente vidéo, mis des pouces en bas. Ça lui a permis de gagner un petit peu plus de visionnage, donc la stimulation de l'algorithme fonctionne, donc je vous invite à faire la même chose. D'habitude on était autour de 700 pouces par émission, là on est monté à presque 1000 de plus en fait. Donc c'est extra. Ça veut dire qu'il y a encore les trois quarts des personnes qui regardent l'émission en entier de bout en bout qui ne mettent pas de pouces. Donc je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Mais faites ça, c'est extrêmement important pour réchauffer, on va dire, l'algorithme de la chaîne, surtout avec tous les gens qui nous ont rejoints. Ce soir, alors juste petite précision, j'espère que j'aurai pas à écourter l'émission, mais je suis encore dans la suite de ma permanence garde à vue de la journée, donc je devrais peut-être, pas m'absenter je pense, mais j'aurai peut-être besoin de répondre en tout cas au téléphone, et puis je partirai faire mes suites de garde à vue après l'émission, après avoir passé la soirée avec vous. C'est l'émission hebdomadaire, donc elle sera suivie du live privé des abonnés, dans lequel je répondrai à toutes leurs questions. Si vous voulez que je réponde à des questions pendant la version du live public, vous pouvez le faire en adjoignant un petit don à votre question. Ce soir donc, je voulais vous parler de la France et je voulais vous parler aussi pas mal de l'Europe. En fait, je pense que je vais laisser de côté le volet Europe parce que malheureusement, ce qui s'est passé à Lyon nourrit un peu l'actualité, donc je devrais en parler dans le volet pourrissement. Je reviendrai sur des choses que j'avais dit il y a deux ans. Je vois des gens s'étonner de dire que j'ai pas dit qu'il était mort, parce qu'en fait, effectivement, dans l'après-midi, moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi il était mort. Et puis en revérifiant l'actualité, parce que je voulais chercher le nom de ce jeune homme que je n'ai pas trouvé, j'ai vu que des articles encore de publiés très récemment, il y a 40 minutes, l'annonçaient toujours comme entre la vie et la mort. Alors j'ai vérifié, j'ai posé la question à Grok qui m'a indiqué que tout ce qu'il y avait c'était un état critique, un état désespéré d'après l'avocat de la famille, et ce seraient des sources policières citées par BFM TV CNews qui parlent d'état de mort cérébrale. Donc effectivement, s'il est en mort cérébrale, on peut déjà pratiquement le considérer comme mort, mais c'est semble-t-il pas officiel. Voilà la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Quentin D, il s'appellerait, d'accord. Donc on transmet nos pensées à sa famille. Et je vais peut-être partir là-dessus, en fait, parce que c'est peut-être plus important, c'est moins peut-être si, sur le fond et les institutions, mais c'est quand même très important sur le contexte. Pourquoi? Ben, parce que vous vous souviendrez, parce que pour moi, le contexte est extrêmement significatif. C'est-à-dire que c'est donc un jeune homme. Alors, j'ai pas réussi à savoir exactement dans quelle mesure il était très militant. Il semble-t-il effectivement proche de la mouvance identitaire. J'ignore à quel point il est habituellement impliqué. Et donc il accompagnait le collectif Némésis. J'ai vu que dans un premier temps, il était question qu'il en fît partie du service d'ordre. Après, j'ai entendu dire que c'était non, qu'il était juste là en accompagnement, enfin qu'il assistait à la manifestation. Et donc, pourquoi est-ce que ça me paraît très significatif? Parce que il faut se rendre compte que cette agression par des Antifa a eu lieu alors que le collectif Némésis faisait une espèce de contre-manifestation, comme ça se fait souvent, parce que l'intervention de Rima Hassan à Sciences Po est extrêmement politique. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où on la voit se faire acclamer par l'auditoire, qui naturellement est un auditoire qui lui attaque politiquement. C'est pas pour son œuvre intellectuelle que les gens l'applaudissent, c'est pour en cause de son positionnement politique. Mais donc ça se fait souvent, en démocratie en tout cas, que quand vous avez un rassemblement dans un certain sens, ben vous avez souvent un contre-rassemblement à proximité. En général, cela est surveillé pour éviter qu'il y ait des débordements, parce que naturellement, quand vous avez des militants d'un côté et de l'autre, il y a toujours des risques de débordement. Là, visiblement, pas assez. Donc j'ignore s'il y avait des forces de sécurité de l'État ou de la ville qui étaient là pour vérifier ça. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y avait pas de force, il n'y a pas de raison de finir à ce niveau-là, surtout qu'il n'y a pas eu d'agression. Alors il est question beaucoup de rixes dans les médias, il y en a beaucoup qui l'appellent un militant d'extrême droite aussi, dans l'idée toujours, on le voit notamment, j'ai vu le titre Libération, pour que ça peut être moins grave si finalement vous, pour Libération, si vous êtes un militant d'extrême droite, vous l'avez bien cherché. Alors pourquoi je disais c'est significatif? Parce que vous avez Rima Hassan, qui est donc une des figures les plus emblématiques actuellement de la LFI, et surtout de ce qui est déterminé à devenir LFI, c'est-à-dire le parti des nouveaux exclus structurellement de la société française, c'est-à-dire toute la mouvance islamo-allogène, c'est-à-dire islamiste et décolonial, en fait, tout ça, dont Rima Hassan est une espèce d'incarnation. Et c'est donc en marge d'un rassemblement autour d'elle que cette mort a eu lieu. Et alors pour moi qui vous fais souvent le parallèle avec la situation en Espagne dans les années 30 et la révolution espagnole, forcément ça a frappé. Et ça vous a peut-être rappelé, si vous vous souvenez des émissions que j'avais fait, je crois que j'en avais plus trop parlé de l'Espagne depuis 2 ans, depuis que j'avais parlé de différents scénarios qui pouvaient y avoir au sortir de la dissolution. Il y avait ce risque donc du pourrissement et de l'évolution vers la guerre d'Espagne. Je vous avais expliqué notamment que ce qui a caractérisé la guerre d'Espagne, c'est qu'elle était arrivée au bout de 3-4 ans déjà après le début de la révolution. Pour vous expliquer que une révolution, ça peut mettre du temps à pourrir de la sorte. Et je vous avais cité, je pense, l'histoire de l'assassinat de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, c'était une... Alors, contrairement au jeune Cantende qui était pas connu, Calvo Sotelo, c'était une figure éminente, dirigeante, en fait, de la droite espagnole en 1936, au début de l'année 1936, qui a été assassinée, en fait. Par des forces qui étaient liées à la gauche au pouvoir, au Front Populaire, et qui, ce qui a été un des éléments de déclenchement en fait de la guerre civile, parce que ça fait partie de ceux qui ont poussé un certain nombre de militaires espagnols, notamment le général Franco, à se joindre au coup d'État qui était en préparation contre la République, ou contre, on va dire, la version de la République qui était en train d'apparaître, c'est-à-dire une République d'inspiration véritablement anarcho-communiste, en fait. Et ce qui est très intéressant à propos de ce parallèle que je vous avais déjà fait, et je pense que je vous avais dit qu'il ne serait pas impossible qu'à un moment on voit un Calvo Sotelo, c'est que vous aviez une figure précisément de la gauche espagnole à cette époque-là, dont je vous avais parlé aussi, qui s'appelait Dolores Ibaruri. Et il y a toute une... Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou, qui s'est construite autour de ça, mais la mort de Calvo Sotelo, dans l'esprit, en tout cas des anti-républicains ou des nationalistes, était liée précisément à Dolores Ibaruri et sa façon de militer, en fait. Dans le sens où il y a une anecdote qui n'est pas vérifiée par les historiens, même si il est considéré qu'il y a des témoignages disant qu'elle l'a dit, qui aurait dit, quelques semaines avant son assassinat, cet homme a parlé pour la dernière fois. Et donc c'est très intéressant parce que, vous savez, quand on dit la passionnariat à propos d'une femme qui soutient une cause, ça vient d'elle, ça vient de Dolores Ibaruri, c'était elle, la passionnariat, c'est comme ça qu'elle était surnommée. Et je vous avais déjà fait ce parallèle parce qu'avec Rima Hassan, il y a un côté la passionnariat, il y a un côté Ibaruri, parce qu'effectivement, elle se permet de dire des choses extrêmement graves et menaçantes, souvent sur les réseaux sociaux. Il y a ces formulations antisémites régulièrement, mais il y a d'autres choses comme ça. Une espèce de refus intrinsèque de condamner forcément la violence, on l'a vu avec le Hamas, mais ça vaut aussi dans le pays. Et donc, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris la mort de ce jeune homme, c'est qu'on a à la fois la figure de la passionnariat qui réapparaît et qui, encore une fois, est liée à la figure d'un militant nationaliste, effectivement, mais qui, lui, n'avait pas commis de violence et qui se retrouve assassiné simplement pour s'être opposé en manifestant à cette figure-là. Et donc, c'est extrêmement inquiétant sur la façon dont se transforme, si vous voulez, le paysage politique de ce pays et le niveau de violence politique auquel on en est. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler, pour ceux qui ne le suivent pas, ce que je pense de la violence politique en France. Je pense qu'elle est extrêmement sous-estimée et notamment qu'elle est extrêmement mal étiquetée. Dans le sens où, je vais pas refaire toute ma théorie du clivage, il y a quelques jours dans les posts de communauté, j'ai posté la vidéo d'exposition de ma théorie du clivage, à laquelle je vous renvoie si vous voulez comprendre exactement d'où vient le raisonnement. Mais je rappelle que cette théorie aide à mieux comprendre comment est-ce qu'il faut cataloguer la violence politique en France. Et le fait est que, depuis quelques années, vous avez, et ça sort régulièrement d'ailleurs à l'occasion d'attentats qu'on voit apparaître, ou chaque fois que revient sur le tapis le débat sur la question de la violence politique, et en particulier de la violence politique d'ultra-gauche, en général c'est comme ça qu'on l'appelle dans les médias, eh bien, vous avez une espèce d'infographie qui apparaît, qui vous montrera toujours que, en gros, vous avez ça. Alors, je sais pas si je peux retrouver cette infographie. Si je pouvais vous la retrouver, ça serait pas mal, comme ça, ça illustrerait. Mais grosso modo, ça vous montre une violence d'extrême droite qui est un peu importante, j'essaie de le trouver en vous parlant après, mais qui est un petit peu importante, une violence d'extrême gauche qui est forcément moins importante que la violence d'extrême droite, et ensuite en dernier vous avez une violence islamiste qui elle est comac, hein, et qui parle du terrorisme islamiste. Et ça permet à la gauche et souvent aux médias qui manquent, avouons-le, de recul sur les chiffres ou d'esprit critique, ou simplement qui ont une sympathie pour un certain bord ou une habitude de penser dans un certain sens, vont vous expliquer que le danger d'extrême gauche est le moindre, d'accord, c'est le plus petit, le danger d'extrême gauche de terrorisme politique, de violence politique, et l'extrême droite est considérablement plus dangereuse que l'extrême gauche. Bon. Et à côté, il y a le terrorisme islamiste qui, lui, est encore autre chose, voilà, qu'on ne peut pas catégoriser d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et donc ça, c'est encore autre chose, et ce n'est pas lié, donc on ne peut pas... Voilà. Donc l'extrême droite est quand même plus dangereuse. Et là où il y a un problème, c'est que cette classification est totalement fausse, d'après moi, mais en fait, d'après, pas juste d'après moi comme ça, parce que ça me fait plaisir, c'est d'après mon modèle du clivage politique, parce qu'en réalité, tout terrorisme islamiste en France aujourd'hui doit être considéré comme d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que le terrorisme islamiste, c'est le fait de la fraction la plus radicale au sein de la fraction islamiste, politiquement, de la population, qui elle-même est par définition une population de gauche, parce qu'elle fait partie de cette population des nouveaux exclus, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas là au moment où le compromis social a été mis en place. Le compromis social actuellement en place en France a été mis en place au lendemain de la guerre de 1945, avec la mise en place de la sécurité sociale, l'état social, etc. Laïque, féministe, tout ce que vous voulez. Et l'immigration et cette population, donc, et cet ensemble d'idées islamiques sont arrivés sur le sol français postérieurement à ça. De la même manière, si vous voulez, que les ouvriers français étaient arrivés dans la structure sociale française postérieurement au régime qui avait été mis en place par la Révolution française. Révolution républicain, laïque et libéral, si vous voulez. Et donc libéral et donc capitaliste, on va dire, par extension et de manière caricaturale, mais pour que vous compreniez. Et donc une minorité comme ça, qui n'était pas présente au moment de la fondation du consensus politique, eh bien naturellement, veut renégocier le consensus politique à son avantage, pour s'y intégrer, mais pas forcément dans une démarche où elle veut s'intégrer simplement de bonne volonté en se soumettant en règle, non, parce qu'elle veut intégrer dans le consensus un certain nombre de choses qui sont pour elle, qui doivent être ses propres privilèges, en fait, dans le système. Bon. Donc pour la population ouvrière, on va dire, ça a été la mise en place de l'État social, et aujourd'hui, on a des populations d'exclus qui sont et c'est propre à tout l'Occident, partout, les immigrés sont la population des nouveaux exclus, et donc forment le noyau de gauche de ceci. C'est le cas aussi outre-Atlantique. Il y a un pays où c'est pas le cas, et où du coup il n'y a plus de gauche, hein, c'est le Japon. Le Japon s'est arrêté au stade de l'évolution social-démocratie, parce que comme après ça, une fois arrivé à la social-démocratie, contrairement à tout l'Occident, il n'a pas importé de population immigrée, ben, il n'y a plus de gauche au Japon, tout simplement. Donc, et ça vous donne le raz-de-marée pour Sanae Takachi qui a eu lieu cette semaine. J'ai aussi fait un petit post de communauté là-dessus, vous pourrez aller le voir. Mais donc tout ceci doit vous faire comprendre que par conséquent, tout ce qui est le terrorisme islamiste, ça compte comme du terrorisme d'extrême gauche. Ça doit être calculé avec. Il n'y a pas de raison de ne pas le calculer avec, notamment parce qu'en plus, il y a une sympathie de l'un pour l'autre. Quand Rima Hassan refuse de condamner le Hamas et explique que c'est un mouvement de résistance, etc., ça indique une sympathie pour le terrorisme islamiste, puisqu'on est quand même aussi là-dedans. Donc il y a cette proximité-là, et ça existe très fortement. Donc déjà, ça vous fait grossir très fortement la menace de violence politique du côté de la gauche, hein, encore une fois, et rend à côté de ça totalement ridicule et résiduelle la menace de violence politique à l'extrême droite en France. Mais ce que j'explique aussi, et ce que j'ajoute, c'est que à cette violence politique, proprement politique, de l'extrême gauche, les milices antifa, la violence politique d'extrême gauche aussi, mais sous d'autres drapeaux, en tout cas pour l'instant, qui est celui de l'islamisme, qui est celui du terrorisme islamiste, vous avez encore tout un tas de violences qui doivent être considérées aussi comme des violences d'extrême gauche, et qui sont, selon moi, peut-être pas la totalité, mais en tout cas une bonne partie, des violences liées au narcotrafic. Toutes les violences qui consistent en des conquêtes de territoire, en des attaques sur des bâtiments ou des personnes représentant l'autorité publique, tout ceci, ça doit aussi être compté comme de la violence d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est le fait de populations qui sont structurellement membres de cette classe d'exclus, puisque le narcotrafic, ça vient essentiellement de problèmes dans les banlieues, et ça, c'est la plupart des impliqués sont des gens qui sont d'origine immigrée. Donc ils appartiennent déjà à ces populations qui sont structurellement d'ultra-gauche. Et en plus, il y a une perméabilité entre ces milieux et les milieux d'ultra-gauche. Je cite souvent un cas qui a eu lieu par chez moi à Toulouse ici, qui est une bande d'antifa qui a été poursuivie et condamnée pour trafic de drogue. C'est-à-dire que vous avez carrément, parfois, des antifas qui s'adonnent au narcotrafic. Hein, vous avez, et vous avez, vous le voyez, l'autre jour, c'est, je crois, Manuel Bompard qui a fait des déclarations un petit peu équivoques, là aussi, à propos d'une certaine forme de légitimité du narcotrafic, justement, du commerce de drogue. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, et que vous ajoutez encore par-dessus ça un certain nombre d'autres actions d'extrême-gauche qui ne sont pas des atteintes aux personnes, mais qui sont des atteintes aux biens, par exemple, un certain nombre de collectifs qui militent pour organiser les squatteurs, c'est-à-dire pour aller prendre, par exemple, je sais pas, des immigrés de fraîche date et leur dire « vous pouvez aller vous installer dans tel appartement qui est vide », et donc qui sont des atteintes directes à la propriété, mais organisées par des groupuscules d'extrême-gauche, ça aussi c'est une forme de violence. Ce n'est pas une violence contre des personnes, mais c'est aussi une violence contre des biens. Donc vous comprenez bien que si vous additionnez à tout ça, maintenant, le fait que l'extrême-gauche, les milices antifa, tuent carrément des gens, et sous la forme de ce qui est visiblement un lynchage, il faudra attendre le résultat de l'enquête, mais enfin, a priori, les témoignages et la plupart des récits semblent pencher dans cette direction-là. Et bien, à ce moment-là, vous vous retrouvez effectivement dans une situation, politiquement, de violence politique, en France, qui est très largement sous-estimée. Dans les médias, dans l'appréhension policière de tout ça, on a pris l'habitude de saucissonner, de compartimenter en sources de violences différentes un certain nombre de violences, ce qui permet d'une certaine manière, à la fin, de dire qu'il n'y a pas de violence politique. Ou qu'il n'y a que très peu de violence politique en France. Que la violence, c'est de la violence criminelle, c'est du terrorisme islamiste, mais tout ça ne serait pas de la violence politique. Et ça, c'est à mon avis, en soi, un gros problème. Parce que cela, justement, fausse le diagnostic qu'on a. Et donc, moi, souvent, forcément, quand je fais ce parallèle avec l'Espagne, on a tendance à me dire, oui, mais on n'est pas dans une société de ce niveau-là de violence. Donc, le risque n'existe pas. Et justement, notamment en me mentionnant les violences d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche spécifiquement. Mais encore une fois, si vous redessinez le tableau, si vous essayez de changer vos lunettes et de voir les choses sous cet angle-là, vous apercevez qu'au contraire, d'après moi, la situation en France est beaucoup plus délétère que ce qu'on a l'habitude de dire. Et on se rapproche beaucoup plus du genre de choses, surtout si vous ajoutez ça à ça, encore une fois, un certain nombre de profanations, d'incendies, d'églises... d'origine inconnue quand elle est vraiment pas connue, de vidéos que vous voyez justement de souvent d'immigrés visiblement avec des problèmes mentaux ou non qui pénètrent dans des églises pour y agresser des gens ou pour y casser du mobilier liturgique, tout ça c'est le genre de choses qu'on voyait et qu'on observait dans l'Espagne pré-guerre civile. Et donc tout ça, à mon avis, est extrêmement inquiétant, en particulier dans les semaines qui précèdent l'arrivée de ces élections municipales, qui, à mon avis, peuvent avoir, encore une fois, dans ce contexte-là, un rôle politique important. Ça peut être un moment significatif. J'attends encore de voir en quelle mesure, mais ça va vraisemblablement être de toute façon intéressant à observer. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, du pays, et ça me paraissait important de commencer là-dessus, donc plutôt, avant d'en venir au sujet que j'avais prévu à la base, mais auquel je viens tout de suite, qui est le sujet des nominations d'Emmanuel Macron, justement. Alors, on a donc un Emmanuel Macron qui est en train de nommer tout un tas de gens. Vous avez Amélie de Montchalin qui va être nommée présidente, première présidente de la Cour des comptes. On ne sait pas encore qui va être nommé président de la Banque de France, mais il y a Villeroy de Galhau qui a démissionné et qui donc va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Il y a Richard Ferrand qui a été nommé aussi au Conseil constitutionnel. Et donc on parle de plus en plus du fait que Emmanuel Macron, alors qu'il n'a pratiquement plus de légitimité, essaie de tout verrouiller, de verrouiller le système après. Tout ceci est cohérent avec un certain nombre de choses que j'avais pu suggérer il y a quelques temps, mais qui était évident, je veux dire, c'est pas une gloire qu'on peut s'en faire. qui était de dire qu'au fur et à mesure qu'on approcherait de l'échéance à laquelle le Rassemblement national risquerait de prendre le pouvoir, on verrait de plus en plus de gens militer pour essayer de trouver des moyens d'empêcher cette arrivée au pouvoir, quitte à changer tout un tas d'éléments du système qu'on pouvait penser non négociables pour eux. Et ça touche un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez la proportionnelle qui est désormais défendue par beaucoup de gens qui espèrent se servir de ça pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Alors qu'avant, c'était un moyen pour le Rassemblement national de progresser dans les sondages et dans les possibilités de résultats électoraux. Mais maintenant, c'est vu comme un moyen de l'empêcher d'accéder à la majorité absolue, ce qui est devenu une crainte importante. Et mais vous avez d'autres moyens de faire ça, encore une fois. Et un moyen de faire ça, c'est de nommer tout un tas de gens qui seront difficilement déboulonnables par la suite. Ce qui à la fois permet à Emmanuel Macron de continuer à affermir son pouvoir personnel jusqu'à sa date normale de départ, à condition qu'il ait envie de partir, hein, parce que sur mes films, personne. Honnêtement, faut quand même dire deux mots là-dessus. Il faut se poser la question à un moment de où ce type veut aller. Parce que, d'une certaine manière, il essaie de verrouiller tout le système de pouvoir, de placer des gens à lui un peu partout. Sauf que il n'a pas d'avenir immédiat. Il ne peut pas se représenter. On sait qu'il pense que c'est scandaleux qu'il puisse pas se représenter, mais enfin, normalement, il ne peut pas le faire. Mais à côté de ça, quelle est son ambition ? Parce qu'on parle de quelqu'un qui pourrait se dire « je reviendrai 5 ans plus tard, éventuellement », sauf qu'il n'a plus de parti. Emmanuel Macron ne peut pas partir à la tête de son parti Renaissance et se dire qu'il reviendra dans quelques semaines, alors que dans quelques années, à la tête de ce parti-là. Gabriel Attal ne le laissera pas revenir à la tête de Renaissance. Il est complètement cramé, il n'a plus de parti. Donc, à l'échelle nationale, alors il peut peut-être espérer que le vent est tourné et que finalement on finisse par le regretter, mais ça paraît quand même assez peu probable. Parce que malgré tout, personne ne regrette toujours François Hollande. Donc ça, c'est invraisemblable, surtout qu'après sa dissolution, une bonne partie des gens qui le soutenaient l'ont lâché. À côté de ça, est-ce qu'il veut faire ça pour donner des gages et pouvoir dire ensuite aux Européens « Regardez, c'est grâce à moi que la France n'a pas totalement sombré, parce qu'avant de partir, j'ai mis tout un tas de gens à tout un tas de postes. » Et donc, je sais pas, donnez-moi la présidence de la Commission, par exemple. Je pense que c'est négliger le fait qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui seront ravis de le voir partir, au moins autant que les Français. Alors, je ne sais pas si je vais m'étendre sur ce que je voulais dire sur l'Europe, je le réserverai peut-être à la prochaine émission du coup, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Mais clairement, c'est difficile de voir où est-ce qu'il veut aller. Alors, est-ce qu'il espère, je ne suis pas dans sa tête, est-ce qu'il espère qu'il y a une guerre qui va se déclencher, qu'il va y avoir une nouvelle crise qui va lui permettre de se maintenir ? J'ai déjà dit à quel point je pensais que c'était une mauvaise idée parce que, à son niveau d'illégitimité, vous avez beaucoup plus de chances que la crise vous foute dehors plutôt qu'elle vous permette de vous refaire la cerise. Donc j'y crois pas trop. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est que dans le processus institutionnel, on va dire, de transition, qui selon moi s'est ouvert, hein, je vous rappelle, je renvoie à la vidéo qui est un accès gratuit sur pourquoi une révolution arrive en France, nous avons une séquence révolutionnaire qui s'est ouverte depuis la dissolution et surtout depuis la première motion de censure. Mais nous avons Macron qui est toujours là, comme Louis XVI était toujours là après 2 ans, après le début de la révolution, ça n'empêche pas. Mais néanmoins, il fait toujours un usage massif de ce pouvoir de nomination qui est extrêmement important. Et c'est par ce pouvoir de nomination qu'il cherche à maintenir sa puissance. Et alors, c'était important, je voulais faire quand même un petit retour avec vous sur ce pouvoir de nomination, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du pouvoir de nomination du président de la République. On en parle accessoirement, il nomme aux hautes fonctions, aux emplois publics, tout ça. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est important, à quel point c'est structurant, à quel point c'est un pouvoir colossal. C'est probablement même un pouvoir plus important que la dissolution, pour vous dire. parce que la dissolution, c'est une espèce d'arme nucléaire, si vous voulez. Le pouvoir, les nominations, c'est toutes les armes conventionnelles, en fait, que vous avez. C'est toutes vos armées, c'est vos tanks, vos chars, vos avions, c'est ça, dans la main du président de la République. Et c'est extrêmement utile. Les nominations, ça vous permet à la fois de pouvoir mettre à des postes clés des gens qui vous seront fidèles et qui feront ce que vous voulez. Donc forcément, c'est un relais de pouvoir, c'est un pouvoir étendu qui est extrêmement considérable. Parce que ça veut dire que vous avez virtuellement au moins une partie du pouvoir de tous les gens que vous allez nommer qui vous revient en personne. Il faut considérer ça comme du pouvoir étendu, si vous voulez, du pouvoir délégué. Donc déjà, si vous additionnez tout le pouvoir de tous les gens qui sont nommés pour le président de la République, même si vous comptez que ça ne compte que pour une fraction encore qui remonte directement au président de la République, ça fait un rôle beaucoup plus considérable encore que celui qui est, à strictement parler, donné par la Constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce pouvoir de nomination vous assure tout un tas de fidélité aussi de la part de gens qui ne sont pas encore nommés. Justement parce que les gens savent que leur destin professionnel peut dépendre de vous. Que de la faveur qu'ils arriveront à acquérir auprès de vous pourra sortir ben, un poste comme ça où vous pourrez rester comme Amélie de Montchalin peut l'espérer une trentaine d'années. Hein, c'est extrêmement considérable comme pouvoir, ça. Et ça permet à des gens, il a recasé je crois une centaine de membres de la Macronie qui ont été dégagés à des postes divers et variés, donc ces gens peuvent continuer de vivre et d'exercer du pouvoir alors qu'ils ont perdu leurs élections. Et ça aussi c'est un pouvoir considérable parce que ça veut dire que même si vous dissolvez l'Assemblée nationale, ben, ceux qui vous ont été le plus fidèles, vous pouvez leur promettre qu'ils retrouveront quand même un poste, même s'ils perdent les élections. Donc c'est extrêmement considérable comme pouvoir. Et là où c'est encore plus considérable comme pouvoir, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des nominations, des très hautes nominations du président de la République, sont des nominations discrétionnaires. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui choisit le candidat, qui le nomme, et le Conseil des ministres doit simplement valider, contresigner ça. Et il faut bien vous rendre compte que c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron fait en sorte, depuis un an et demi, d'avoir toujours un Premier ministre qui est plus ou moins à sa main. Parce que comme ça, il conserve l'intégralité de son pouvoir de nomination. S'il avait mis en place une vraie, vraie cohabitation, c'est-à-dire qu'il avait mis en place un Premier ministre du Front, Nouveau Front Populaire, ou un du Rassemblement National, mettons. Il est très probable qu'un Premier ministre, dans un tel gouvernement, se serait opposé aux volontés de nomination d'Emmanuel Macron et aurait trouvé des moyens d'obtenir des candidatures qui soient, en tout cas de l'obliger, à choisir des gens que le gouvernement pourrait accepter. Il faut bien se rendre compte que dans la plupart des pays européens voisins, ça n'existe pas, ça. Hein. Le pouvoir de nomination du président de la République est absolument considérable. Considérable. Pour vous donner une petite idée, donc, c'est lui qui désigne le premier président de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque de France, le président du Conseil constitutionnel, hein, il nomme trois membres du Conseil constitutionnel, mais parmi eux, c'est lui qui nomme le président. Il nomme le président de Radio France, il nomme le président de France Télévisions, il nomme le président de l'ARCOM, il nomme le directeur général de la police nationale, celui de la gendarmerie nationale, le préfet de police de Paris, qui est un poste stratégique, un certain nombre d'ambassadeurs, il nomme le directeur général du Trésor, qui est le bras armé financier de Bercy. C'est lui qui nomme le président du directoire d'EDF, de la SNCF. Enfin bref, il y en a tout un tas comme ça. C'est même lui qui nomme le directeur général du CNRS, celui du CNES, celui du conseil d'administration du Louvre. Enfin, c'est absolument dingue. Tous les postes qui sont aux mains du président de la République, qui peut décider d'y mettre qui il veut, véritablement. Et il suffit qu'il ait un Premier ministre de son côté, et à ce moment-là, ce pouvoir de nomination est en fait totalement absolu. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron a réussi, avec le corps nu, à manœuvrer pour maintenir un Premier ministre qui est à lui, et ça lui permet de continuer à exercer jusqu'au bout ce qui est son principal pouvoir, qui est ce pouvoir de nomination. Très honnêtement, à mon avis, si j'étais parlementaire, une des raisons pour lesquelles je tenterais de censurer le gouvernement, c'est justement pour mettre fin à la capacité d'Emmanuel Macron de nommer qui veut. Mais inversement, là où c'est intéressant, c'est que les nominations, vous en entendiez jamais parler. On en parlait très très peu. Là, il pousse quand même le bouchon un petit peu loin, hein, entre justement l'histoire de Montchalin et du gouverneur de la Banque de France. Ce qui fait que on en parle et on commence à en débattre. Et encore une fois, en plus, on a une population qui s'est un petit peu conscientisée politiquement, hein, depuis un an et demi. Et donc, cette question du pouvoir de nomination du président de la République va commencer à être remise en question. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi se dire, mais alors, par exemple, si c'est Marine Le Pen qui est président de la République, elle va pouvoir nommer tous ces gens aussi. Donc, ce qui est intéressant, malgré tout, à travers cette séquence, c'est que ça met en lumière un pouvoir du président de la République qui est peu souligné d'habitude et dont on voit à quel point il est extrêmement problématique. Alors, je quelqu'un qui me demande, mais le suivant, il ne peut pas en nommer d'autres et les dégager. Alors, non. C'est-à-dire que, par exemple, le premier président de la... Enfin, ça dépend des postes. Mais le premier président de la Cour des comptes, par exemple, lui, c'est un magistrat. Donc, il est censé être indépendant. Et donc, il ne peut pas être viré, comme ça, pour être changé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des postes, oui, ils peuvent être changés, on va dire, à révoquer. Mais il y en a d'autres ou non, où c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un véritable pouvoir et qui engage aussi la suite. Et tout ceci est extrêmement problématique, encore une fois, de la part d'un président qui a perdu toute légitimité, qui essaie de se refaire une légitimité à travers un certain nombre d'actions politiques à l'international. Je pense que vous aurez noté à quel point il a joué ad nauseam sur la petite séquence qui a fait un petit buzz à Davos, qui était sur son Forcher. C'est vraiment, ça fait le mec, vous savez, qui a fait sa blague. La blague a fait rire tout le monde au début, et du coup il l'a refait plein de fois parce que jusqu'à ce que les gens puissent plus, arrête avec cette blague, ça va, tu nous la fais à chaque fois, c'est pas la peine. Sa communication sur le sujet est vraiment partie à fond là-dessus. Et donc pour moi, sur le plan institutionnel, là il y a quelque chose d'intéressant. Ça fait partie de l'évolution du truc. Il y a un petit côté Monsieur Veto, si vous voulez, dans cette attitude-là. Vous savez, Monsieur Veto, c'est ce qu'on disait de Louis XVI, au moment où, alors que la monarchie constitutionnelle s'était mise en place, on a commencé à lui reprocher de faire trop usage des pouvoirs qui étaient les siens, notamment le pouvoir de veto, et de bloquer, en fait, d'insulter finalement la représentation nationale en l'empêchant de faire son travail. Et d'une certaine manière, c'est un comportement de Monsieur Veto qu'on voit de la part d'Emmanuel Macron là. Et je pense que c'est dangereux pour la stabilité de la suite des institutions. Parce qu'encore une fois, désolé de reprendre toujours la même expression, mais on est encore une fois face à quelqu'un qui joue les règles. C'est-à-dire quelqu'un qui pousse dans ce... Je ne sais plus quel théoricien parle de brutalisme institutionnel, c'est un Américain, pousse au bout de ce que les institutions lui permettent, fussent totalement contre l'esprit du fonctionnement de ces institutions. Donc il dit « Je m'en fous, j'ai été élu pour 5 ans, je reste jusqu'à la fin, même si je suis à 12% d'opinion favorable. » C'est absolument catastrophique. À la limite, c'est même pas comme Starmer, parce que vous avez vu, Starmer, il arrive à se maintenir au Royaume-Uni, mais parce que Starmer, il a dit à sa représentation nationale, je partirai pas tout seul, donc je dissous. Il a dit à son parti, qui est au pouvoir, si vous me soutenez pas, je dissous et puis vous irez vous faire foutre parce que comme vu les sondages, vous allez vous ramasser aux élections. Donc une attitude véritablement démocratique irait effectivement aux élections pour se prendre une branlée, mais parce que c'est comme ça. Mais une pratique politique classique fait qu'un Premier ministre britannique, qui joue toujours sa santé en même temps que sa majorité, peut faire ça et obliger sa majorité à le soutenir. Ça, à la limite, c'est le jeu parlementaire. Ce que fait Emmanuel Macron, qui dit juste « j'ai été élu pour 5 ans, donc je reste, même si j'ai fait que des catastrophes et que je... » j'affaiblis en fait le leadership français, parce que c'est ça le problème, c'est que les gens ne l'écoutent plus. On a vu la façon dont Donald Trump le traite, en expliquant que de toute façon il sera plus là dans longtemps. On sent qu'il y a aussi une forme d'agacement chez un certain nombre de personnages, notamment Friedrich Merz. Encore une fois, je pense pas que je vais partir dans tout ce que je voulais vous dire sur l'Europe, je le ferai dans la prochaine émission, mais il y a ce jeu qui est en train de se mettre en place, et donc Emmanuel Macron, lui, joue les règles, non seulement en se maintenant en place, ce qui déjà était une chose, mais à la limite, il aurait pu décider de revenir justement à l'esprit un petit peu qui était initial de la Ve République, et ce qui est l'esprit de n'importe quelle démocratie parlementaire, c'est-à-dire d'un président qui règne d'une certaine manière, mais qui ne gouverne pas, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas de gouverner. Et ne pas s'occuper de gouverner, c'est notamment se mettre en retrait et ne pas décider soi-même de faire des nominations. Par exemple, il aurait pu demander à ce qu'on lui propose des noms pour les nominations. En cherchant, au contraire, ce qu'il fait, c'est que il affirme son pouvoir, il refuse de se mettre en retrait. Chaque fois qu'il a dit qu'il se mettait en retrait, en fait, vous avez constaté qu'il ne se mettait pas en retrait, mais chaque fois, on pouvait s'en douter hein, que finalement, il ne se mettrait pas en retrait, que ça ne se passerait pas comme ça. Et donc, vous avez en fait ce retour du pouvoir qui refuse de laisser tomber et qui, à mon avis, et bon, je pense que je terminerai là-dessus, à mon avis, fait qu'il n'est encore pas impossible qu'il y ait un accident qui le pousse à partir avant 2027. Comme je vous l'ai déjà dit, d'après moi, tant qu'on est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle suivante, pourquoi ? Tout simplement parce que le seul cas que j'ai véritablement qui permette de confirmer ça, c'est ou qu'il y ait quelque chose d'approchant, c'est l'Ukraine de 2014 et Yanukovych était à un an de la fin de son mandat. Donc je ne suis pas sûr que s'il n'y a plus que 6 mois jusqu'à la fin du mandat, ça ne décourage pas les volontés de mettre le type dehors, parce que les gens sont déjà dans l'idée de l'élection suivante, et il n'y a aucun intérêt à faire partir le type en avance. Tant que vous êtes à un peu plus d'un an, je pense que cet intérêt est quand même là, donc on a un exemple en plus qui le montre. Et pensez à pousser, oui, vous êtes quasiment 500, il n'y a que 200 pouces, vous pouvez faire mieux, je suis sûr. Et vous, quand vous reverrez cette émission en replay, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc il n'est pas impossible encore qu'il y ait un accident qui peut être de toute nature, c'est très difficile à anticiper. J'attends déjà de voir encore une fois, je pense que ça va être très très intéressant l'enjeu des élections municipales. Une élection municipale, ça peut avoir un grand rôle. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne s'ouvre sur une élection municipale perdue par le pouvoir royal. Donc en fonction de l'ampleur que ça prendra, je pense que ça pourra jouer. Et là, c'est dans un mois maintenant, donc on aura vite le résultat. Donc ça peut amener encore plus de discrédit, ça peut éventuellement affaiblir le gouvernement de Lecornu. Et peut aussi y avoir des chocs extérieurs, de nouveaux chocs en ce qui concerne l'Amérique de Trump, notamment puisque maintenant le mouvement MAGA apparemment veut financer des think tanks, des organisations en Europe qui militeraient en fait pour une lutte contre l'establishment finalement, une guerre contre l'establishment. Et dans cette guerre, on a bien compris que Emmanuel Macron est peut-être devenu le principal obstacle aux velléités américaines. On a vu notamment que il n'y a que la France, je crois, avec l'Autriche. Alors je ne sais pas pourquoi les Autrichiens ont été très chauds sur la question, qui, à l'occasion des menées américaines au Groenland, c'est-à-dire la séquence qu'il y a eu mi-fin janvier, ont mentionné la possibilité d'aller à une confrontation. Alors que la plupart des autres pays, soit ont appelé au dialogue, comme une bonne partie des pays d'Europe de l'Est, la Pologne notamment, ou encore l'Italie, et les autres pays, la majorité des pays autour de l'Allemagne, sont contentés de condamner le fait que les Américains se montraient menaçants, mais sans aller plus loin. Donc dans cette équation de l'Europe, la France est en train de devenir problématique, la France avec Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron cherche à réévaluer le rôle de la France en Europe en utilisant les atouts de la France, et notamment le fait qu'on a encore une armée qui tient debout et on a encore une arme nucléaire, après tout, c'est pas plus mal. C'est effectivement ce que doit faire un chef de l'État français qui poursuit les intérêts de la France et donc qui veut rééquilibrer la balance du pouvoir en Europe au profit de la France. Ça, pourquoi pas. Le problème, c'est que la nouvelle lubie, semble-t-il, d'Emmanuel Macron, c'est d'accompagner tout ça justement d'une espèce de narratif de la confrontation avec les Américains et du fait de dire que la France va remplacer les Américains sur le continent européen. Et ça, à mon avis, c'est une attitude qui est dangereuse. D'une part, parce que ça fait de la France un ennemi des États-Unis en Europe, Et donc, c'est le risque, surtout sous une présidence Trump un peu soupolée, de payer des conséquences de ça. Et ça me paraît également dangereux parce que il est très peu probable que l'Allemagne, par exemple, accepte ça. Et donc, vous avez un certain nombre de choses que la France est en train d'essayer d'obtenir via Emmanuel Macron, notamment la question des eurobonds. Est-ce qu'il va essayer, en gros, de vendre la dissuasion nucléaire à l'échelle européenne, puisque c'est ça qui doit être discuté aujourd'hui à Munich? Est-ce qu'il va vendre la direction, le parapluie nucléaire français sur l'Europe en échange d'eurobonds qui permettraient de faire financer notre dette par tous les voisins, de la même manière qu'on a fait financer notre dette par la BCE depuis, encore une fois, 15 ans, hein. La France aurait dû faire faillite il y a 15 ans déjà. On a été sauvé par l'euro, je vous en ai suffisamment parlé, et par la BCE surtout, par sa politique monétaire. Donc c'est extrêmement dangereux parce que on ne voit pas du tout les Allemands décider d'aller dans ce sens-là. Les Allemands, clairement, ont compris que leur problème, que le problème c'était que la France, justement, était le seul pays qui avait une armée et qu'en fait, la France en jouait pour essayer de rééquilibrer le pouvoir à l'intérieur de l'Europe. Donc, quelle est la réaction allemande? La réaction allemande n'est pas du tout de dire, bon, ben d'accord, comme vous avez une armée qui tient debout et qu'on est dans une situation sécuritaire compliquée et qu'on a besoin de votre armée, on va renégocier la balance du pouvoir à votre profit, hein, on va faire faire, on arrête avec le SCAF, on va faire faire les avions par Dassault, par exemple. Non, évidemment, c'est pas l'attitude qui est prise. L'attitude qui est prise, c'est l'Allemagne se dit, bon, ben en fait, il faut que nous, on ait la plus grosse armée d'Europe, comme ça, ça affermira le leadership allemand sur l'Europe. Et ça, naturellement, c'est extrêmement dangereux. Mais encore une fois, je pense que je ferai le deuxième volet de cette émission. Je m'étendrai sur la question européenne. Je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Et que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, ça laisse aussi un petit peu de suspense. On reviendra sur les sujets que sont le stade d'avancement de l'Europe et justement ce problème de l'articulation entre l'évolution de la situation en France et l'évolution de la situation à l'échelon européen. Bien, alors, je vais regarder, parce que du coup, j'ai pas trop suivi le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions j'arrive pas à remonter au-delà d'un certain endroit. Je sais que l'ami Hiruma n'était pas là pendant une bonne partie de l'émission, mais je vois qu'il m'a envoyé quand même des messages. Il m'a dit... Ah oui, alors, on a la question commentaire, puisque je vous rappelle que la question la plus likée dans les... ou le commentaire d'ailleurs, le plus liké dans l'émission précédente, ce qui vous encourage à mettre des commentaires pour faciliter le référencement, fait l'objet de ma lecture à l'émission suivante et éventuellement de mon commentaire si j'ai quelque chose. Alors dans la dernière émission, c'était Gaëtan Klein qui a dit « Je trouve Philippe un peu naïf sur la question des réseaux pédophiles satanistes. » Ah, déjà, on se prend un Shadowman sur la chaîne, rien qu'avec le j'aurais dû biper. Cela existe vraiment et pas seulement créé par des gens malades mentaux dysfonctionnels. Il y a des gens parfaitement fonctionnels qui ont une vraie carrière et qui peuvent se livrer à de tels actes. Étant thérapeute spécialité dans les traumatismes, j'ai travaillé deux fois avec les survivants de sectes satanistes. Ils avaient vraiment été amenés par leurs parents endoctrinés. Et le niveau de barbarie dépasse l'entendement, ces choses existent malheureusement. Cela n'enlève rien à son analyse sociopolitique. Alors écoutez, moi je veux bien qu'il y ait des sectes satanistes. J'attends de voir ce qu'ils y font. En tout cas, le nombre d'affaires très avérées là-dessus sont limités. Et surtout, encore une fois, moi c'est ça mon problème. Mon problème n'est pas qu'il y ait des gens qui fassent des choses dégueulasses et même des groupes de gens qui puissent se livrer à ce genre de choses et qu'il existe des réseaux de ce genre. Ce que je dis moi, c'est simplement cette chose-ci. Le fait que ces réseaux se superposent largement avec le réseau des élites qui gouvernent le pays, c'est ça dont je dis que, selon moi, c'est improbable. Voilà. Vous pouvez avoir des réseaux de ce genre qui ont éventuellement quelques membres qui appartiennent à l'élite et qui utiliseront d'ailleurs leur appartenance à l'élite pour échapper aux poursuites à l'occasion. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que les deux se confondent et qu'on est gouverné par des élites de ces mouvances-là. C'est ça, c'est là que je dis qu'il y a une. Je dis pas que tout est absolument faux, je dis qu'il y a une exagération là-dedans, et qu'imaginer qu'il y a une superposition comme ça, et que c'est ça qui est la cause de l'omerta, ça c'est faux. En revanche, que vous ayez par exemple des réseaux d'élite qui tout d'un coup ont parmi eux quelqu'un qui fait quelque chose de crado ou qui appartient à un genre de truc crado et qui vont étouffer l'affaire ou aider à l'étouffer l'affaire ou l'empêcher en tout cas ne pas servir le fait qu'elle sorte juste pour protéger la crédibilité de leur réseau par esprit de corps, ça c'est tout à fait plausible. Et ça existe, on a de multiples exemples, et pas seulement avec des trucs sexuels, on a d'autres choses. Hein. Vous avez tout un tas d'affaires comme ça, qui, une fois qu'elles mettent en cause une institution, vont avoir, parmi les membres de cette institution, beaucoup de gens qui seront prêts à plutôt étouffer l'affaire au nom de la crédibilité de l'institution, plutôt que notamment dans l'Église, hein, par exemple. C'est des choses qui arrivent, mais ça existe aussi dans d'autres secteurs. Quand on parle du pas de vague aussi dans l'école, ça revient aussi souvent au même. C'est là aussi, souvent pas à cause des mêmes comportements, mais ça relève des mêmes choses. Voilà, vous avez des esprits de corps qui font ça. Voilà. Mais voilà, ce que je dis, c'est que les réseaux se superposent pas, et l'idée que secrètement les gens qui gouvernent appartiennent au même réseau qui commettent les mêmes crimes ensemble, ça c'est une caricature. Et ça ne correspond pas, ça correspond pas à la réalité. Voilà. C'est tout ce que je dis là-dessus. On remercie Alain Co, qui nous rejoint comme maître historionom, et Amor Splin, qui nous rejoint comme compagnon historionom. Je les remercie bien vivement de leur présence. Il y a d'autres gens, d'ailleurs, je vais essayer de les retrouver, qui sont arrivés récemment, entre deux émissions, et donc qui ne s'affichent pas dans l'émission quand ils nous rejoignent. Il y a... alors par contre, c'est pas toujours facile avec les... alors il y a le roi d'Agobert qui s'est rabonné, ça c'est facile. Il y a 7v6p qui nous a rejoint. JDX qui vient de Tipeee qui est venu. David, je pense qu'il vient aussi de Tipeee. Charles-Julien, je ne sais pas si c'est un transfuge. Stéphane alias Bob, lui, je pense que c'en est un. Et Solid Snake qui nous a rejoint, lui, je pense qu'il est totalement nouveau. Et on a également Istios et Linaro, je crois, qui ont rejoint la semaine dernière ou qui ont monté d'un niveau. Et j'avais pas pu le dire parce que je crois que ça a été sur le fil à la toute fin de l'émission. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Je crois qu'on avait aussi un ou deux petits types. Oui, on a eu un type de Valentin que je remercie bien vivement. Et je remercie de vive voix ici aussi le King Latrille qui nous a fait aussi un don généreux récemment, ce qui nous a aidé dans notre campagne, donc je la remercie bien vivement. Je ne l'avais pas fait de vive voix pendant une émission, donc qu'il soit honoré. Alors on a une autre question posée. Ah oui, question au choix. Pourquoi ils annuleraient l'élection présidentielle? Alors c'est pas tellement annuler l'élection présidentielle le problème. Le problème, si vous voulez, c'est que s'il y avait une démission d'Emmanuel Macron, par définition, il y aurait une élection anticipée. Et donc elle n'aurait pas lieu en 2027, elle aurait lieu avant. Je pense qu'il y en aurait une quand même. La question qui se poserait à ce moment-là, c'est celle de la fonction véritablement de cette élection. Et du statut de la fonction de président de la République. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, changer les pouvoirs du président de la République pour voir ce que serait le président suivant? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc, je dis plutôt que ça serait un report plutôt qu'autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Dans une minute, je viens de lancer le décompte, va commencer le live privé, donc réservé à nos chers membres auxquels vous pouvez vous joindre en rejoignant à votre tour la chaîne. Sinon, si vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez aller faire un tour, lire les posts de communauté que j'ai mis cette semaine qui vous renvoient vers un certain nombre, qui présentent un certain nombre de choses. J'essaie de faire des choses un petit peu, comme il y a eu beaucoup de nouveaux venus, de faire un certain nombre de choses de bienvenue pour vous aiguiller, pour savoir ce qu'il faut aller voir en priorité, pour comprendre un petit peu ce que je raconte en général. N'hésitez pas à pousser, je sais pas combien on en est sur les pouces là, mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. C'est extrêmement important pour moi, et c'est extrêmement important aussi de mettre des commentaires en référencement, voilà, pour que l'algorithme se réchauffe.